Chérie, l'invité du vendredi.
Bonjour Christophe Claude, merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes à la fois directeur de Rodacop, qui est donc une coopérative fruitière, et directeur de la cave de Saint-Désirat, dans la vallée du Rhône également. Donc ça représente 650 hectares, la cave de Saint-Désirat, et 2000 hectares pour Rodacop de terres cultivées le long de la vallée du Rhône. Aujourd'hui, un peu plus d'une semaine après l'épisode de gel, quel bilan vous tirez? Quelle est la surface qui a été impactée sur ces deux activités?
Malheureusement, il n'y a pas de bonne surprise, hein, ce qu'on redoutait le matin même, hein, parce que vu l'ampleur du gel, hein, puisqu'on est descendu jusqu'à moins 7 degrés, on savait très bien dans la première journée que les dégâts allaient être considérables, et une semaine après, on peut constater qu'ils restent considérables sur ce qu'on appelle les fruits à noyaux, c'est-à-dire l'abricot en particulier, qui est quand même un des fleurons de la vallée du Rhône. On est sur des pertes de 90%, pour pas dire 100%, parce que je pense que les 10% qui resteront malheureusement ne seront jamais récoltés et n'arriveront jamais jusqu'au bout. Sur la viti, la perte est un peu moins forte par rapport au territoire. On est sûrement sur une perte au moins d'un tiers de la prochaine récolte.
Quelles conséquences de cela pour les 250 arboriculteurs et les 150 viticulteurs et in fine pour la cave de Saint-Désirat et pour Rodacop?
Pour nos adhérents, c'est très clair, ça veut dire pas de revenus pour certains, une grande majorité, pardon, pas de revenus pour l'année 2021 sur l'arbo. C'est-à-dire que pendant 400 jours, si on se projette en espérant que tout aille bien pour l'année prochaine, pendant 400 jours, il n'y aura pas de fruits, donc il n'y aura pas de revenus. Sur la viti, ça se gère un peu plus parce qu'on a un petit peu de retard. On travaille sur des millésimes un peu plus anciens, 2019 par exemple. Donc ça va se gérer. Mais dans tous les cas, c'est une perte sèche de produits qui ne sera pas vendu.
Donc des conséquences importantes pour l'arboriculture et donc par conséquent également pour la filière du fruit en général.
Oui, parce que ça va toucher effectivement les adhérents en direct, comme je viens de le souligner, mais ça va toucher aussi les saisonniers. On emploie à peu près 500 saisonniers pendant la période estivale, c'est-à-dire du mois de juin jusqu'à fin août, essentiellement des étudiants. Et aujourd'hui, on ne fera pas appel à cette main-d'œuvre dans nos stations. Ça veut dire qu'il y a 500 étudiants qui ne vont pas trouver un job d'été qui servait aussi à financer leurs études, à financer énormément de choses sur toute l'année. Et quand on sait qu'en plus, les étudiants sont dans une situation financière critique suite au Covid, on peut imaginer que c'est double peine.
Un épisode aussi important, c'était la première fois, mais ça fait, vous me disiez avant l'interview, ça fait plusieurs années qu'il y a des épisodes climatiques importants sur les cultures.
Oui, on se rappelle qu'il y a 2 ans, il y avait eu un épisode de grêle extrêmement violent au mois de juin, qui avait été largement médiatisé. L'année dernière, sur l'abricot, il y avait déjà eu un épisode de gel un peu moins important, hein, mais qui avait quand même impacté la récolte. Enfin, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, le climat est devenu un peu fou. On a eu un mois de mars cette année qui était très chaud, et donc la végétation a pris de l'avance, et maintenant, sur une nuit, on peut détruire toute une récolte. Oui, on a du mal à gérer, enfin, le végétal a du mal à gérer ce changement climatique.
Du coup, ça pose des difficultés aussi sur les systèmes d'assurance. Les agriculteurs ne peuvent plus s'assurer en raison de ces aléas climatiques de plus en plus importants.
Trop de dégâts sur de nombreuses années, le coût de l'assurance aujourd'hui est trop élevé, et on a même un phénomène encore plus dramatique, c'est qu'il n'y a plus beaucoup d'assureurs qui sont prêts à assurer une récolte.
Aujourd'hui, les solutions, c'est quoi? Il y a une mobilisation politique depuis une semaine. Quelles seraient les solutions de ce côté-là, selon vous?
Là, aujourd'hui, il y a une réponse qui doit être urgente. C'est-à-dire que là, on se retrouve, nos adhérents, la coopérative se retrouve sans revenus à court terme. Donc, il nous faut une réponse urgente. C'est un petit peu la souveraineté alimentaire qui est mise à mal sur toute une partie de la France. Donc, il faut une réponse urgente pour pouvoir tenir, pour pouvoir arriver aux prochaines récoltes. Et puis travailler sur du plus long terme, sur un système de protection encore plus efficace. Mais maintenant, vous promenez dans les vergers, vous voyez, il y a des filets, on protège de la grêle, il y a un système de chaufferette qui ont essayé de se protéger du gel, mais bon, malheureusement, le gel était trop fort. Enfin, aujourd'hui, l'arboriculteur, avant de s'installer, avant de planter, réfléchit sur tout un système de protection, mais on s'aperçoit quand même que le climat peut être très violent. L'agriculteur a besoin de soleil, mais pas trop, a besoin d'eau, mais pas trop, et aujourd'hui, on s'aperçoit quand même que les phénomènes climatiques sont de plus en plus extrêmes.
À ce sujet, justement, lors de son passage en Ardèche, Jean Castex a annoncé que des actions pour limiter le changement climatique étaient en cours, qu'elles allaient être renforcées. Ces actions, est-ce qu'elles seront suffisantes, vous, en tant que premier témoin de ce changement climatique, comment vous voyez ça ?
Premier témoin, c'est surtout première victime. Oui, il y a des choses à faire, mais on sait très bien que le climat, d'abord, c'est mondial, donc il faut que ce soit tous les pays qui se mettent autour de la même table. Ils n'y arrivent pas. On a énormément de retard. Le réchauffement climatique est parti pour un petit moment. Avant d'inverser, on parle d'une dizaine d'années, juste à arrêter même déjà cette montée en température. Donc on a de quoi s'inquiéter à court terme.
Est-ce que le fait, vous me parliez tout à l'heure, de l'importance de la relocalisation de la alimentation. Est-ce que ça peut être une piste de solution? Voilà, on en parle beaucoup depuis un an, consommons local, allons voir nos producteurs locaux. Est-ce que ça, c'est une piste?
Ce que je veux défendre, c'est surtout cette souveraineté alimentaire qui est mise à mal aujourd'hui. Et c'est très important. Je ne pense pas que le consommateur ait envie de manger aujourd'hui une fraise marocaine, des haricots du Kenyan, etc., etc. Donc là, il y a une vraie prise de conscience. Je pense que depuis un an, depuis le Covid, on a beaucoup parlé d'alimentation, on a beaucoup parlé de relocalisation des fruits et légumes. Mais on s'aperçoit que ça ne se fait pas comme ça. Et donc, il faut des réponses très, très vite. Personne n'a oublié qu'il y a quelques mois, on s'était aperçu qu'on n'avait pas de Doliprane en France, qu'on allait tomber en panne de Doliprane parce qu'ils étaient fabriqués en Inde. Et si on ne veut pas que l'alimentation se retrouve aujourd'hui dans le même schéma, il faut réagir très très vite et soutenir l'agriculture locale très très vite.
Merci Christophe Claude d'avoir été avec nous. Alors on le rappelle, vous êtes directeur de Rodacop, la coopérative fruitière, et également directeur de la cave de Saint-Désirat.